monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir. Et nous sommes actuellement en direct sur la page Facebook de VO Afrique, essentiellement le mardi, non pas le samedi, lors de la rediffusion de LMF. Avec moi dans le studio, Madame Lydie Flore Magba, chargée d'affaires à l'ambassade de Centrafrique à Washington. Merci beaucoup, Madame, d'être avec nous. C'est un honneur de vous recevoir vraiment à la Voix de l'Amérique.
Merci à vous.
Bonjour. Alors, vous êtes née à Bangui après l'indépendance d'une fratrie de 7 enfants, dont 4 filles et 3 garçons. Vous êtes la 5e du nom Magba, économiste et fille d'un ancien ambassadeur de la République centrafricaine. Vous avez embrassé la carrière diplomatique il y a 17 ans. Vous avez exercé pendant 9 ans en Chine, notamment comme conseillère économique et ensuite chargée d'affaires. Vous êtes rentrée à Bangui en 2011. Vous avez donc vécu les événements malheureux de mars 2013. Après 1 an et demi d'exil, vous êtes retourné à Bangui fin 2014. Oui. Vous avez ensuite été nommé premier conseiller à Washington en 2015 et 3 mois après, vous êtes devenu donc chargé d'affaires à l'ambassade centrafricaine. Alors, ce parcours, vous auriez des choses à dire, à nous informer un petit peu sur ce parcours. Est-ce qu'il a été difficile? Est-ce qu'il a été sans embûches? Qu'est-ce que vous retiendriez de ce parcours jusqu'ici, Madame Magba?
Mais bonjour, Madame Nathalie. C'est un honneur pour moi d'être invitée ici à la VOA pour cet entretien. Effectivement, je suis à Washington depuis août 2015, donc ça fait 2 ans que je suis là. Mon parcours, comme vous savez dans la vie, il y a des hauts et des bas. Bon, ben, il faut faire avec. Il faut montrer qu'on est capable de relever ces défis. Surtout que si les autorités de la République centrafricaine m'ont fait honneur pour la nomination, donc je ferai honneur à la République centrafricaine et puis je ferai aussi la fierté des femmes centrafricaines. Donc je suis là, mon parcours est un peu difficile, mais pour moi c'est positif parce que j'ai eu à connaître beaucoup de gens, j'ai eu une belle expérience dans ce travail. La diplomatie est un métier noble. Donc fallait bien que je le fasse.
Dans votre famille, est-ce que l'éducation des filles, c'était quelque chose d'important? Est-ce qu'on a mis l'accent dessus? Est-ce qu'on en a parlé? Ou est-ce que c'était tout à fait ordinaire comme l'éducation des garçons?
Tout à fait ordinaire. Mes parents n'ont pas fait de distinction entre filles et garçons. Les filles faisaient les travaux ménagers. Les garçons aussi. On faisait bien les travaux destinés aux garçons. Et les garçons faisaient pareil.
J'ai remarqué que c'est dans ce type de famille où l'on dit que les garçons faisaient les travaux ménagers, que ça fonctionne le mieux en fait. C'est-à-dire que le garçon, il est déjà éduqué aux droits des femmes.
Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai des frères adorables et qui ont eu la chance aussi d'avoir des épouses adorables. Ça se passe bien, ça se passe bien. Quand leurs épouses ne sont pas à la maison, ils assument leur rôle de père et de mère à la fois. Donc, aucun problème avec les garçons.
Madame Magba, la République centrafricaine, les femmes, le rôle des femmes dans ce pays, après la tourmente, et on sait que c'est pas fini, il y a encore des problèmes de violence, la paix c'est pas réglé, la violence armée est toujours là, les gens souffrent. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur le rôle des femmes dans le rétablissement de la paix en Centrafrique? Comment se sont-elles manifestées jusqu'ici et que font-elles encore aujourd'hui?
Bon. Pour vous dire, la femme centrafricaine, je pense que pendant les événements, c'est la femme et l'enfant qui ont été le plus touchés par la crise. Et personnellement, je prends mon exemple par exemple, puisque j'ai vécu les événements, quand les événements commençaient, je dis mais pourquoi m'asseoir? Vaut mieux me lever. Et je me suis levée et je crois que c'est le cas de plusieurs mères centrafricaines, plusieurs femmes centrafricaines, elles se sont levées pour se battre contre les événements malheureux de 2013. Et elles se sont battues et leur rôle est très prononcé.
Oui.
Vous voyez, il y a eu la nomination de Madame Catherine Samapanza. C'est une mère, c'est une femme.
Est-ce qu'elle était écoutée?
Très écoutée. Mm-hmm. Parce que personnellement, je pense que si c'était un homme à la place de Madame Catherine Samapanza, on ne devait pas aller aux élections.
Ça aurait été pire.
Voilà.
Ouais.
Mm-hmm. C'est bien ça. C'est bien ça.
C'est dans la presse.
Un enfant sur 10 dans le monde n'a reçu aucun vaccin en 2016 et risque d'attraper la diphtérie, le tétanos ou la coqueluche, alerte l'OMS. Ces enfants n'ont très probablement reçu aucun des services sanitaires de base, a relevé le docteur Jean-Marie Okwobele. Parmi les pays qui ont un taux de vaccination inférieur à 50%, notamment la République centrafricaine, le Tchad, le Nigeria, la Somalie et le Soudan du Sud. Les autorités saoudiennes enquêtent sur une vidéo montrant une jeune femme non voilée en mini-jupe dans un site historique. Il a été ordonné de la poursuivre en justice pour s'être montrée en tenue indécente. La Commission pour la promotion de la vertu et la prévention du vice entend adopter les mesures nécessaires contre cette transgression, a déclaré un porte-parole de la police religieuse. Et lors d'une visite au Nigeria, Malala Yousafzai a rencontré des lycéennes de Chibok et a proposé au président intérimaire Yemi Osinbajo de déclarer l'état d'urgence dans l'éducation. Selon l'icône de l'éducation des filles, Monsieur Osinbajo a réagi de manière positive à sa suggestion. Et d'après l'UNICEF, 10 500 000 enfants, dont une majorité de filles, n'ont pas accès à l'école au Nigeria. Malala, 20 ans, a terminé sa scolarité dans un lycée de Birmingham en Grande-Bretagne. Madame Magba, un petit mot à dire, une petite réaction sur les articles que je viens de lire éventuellement?
Oui, par rapport au mariage forcé des jeunes filles, je pense que c'est vraiment une sorte de crime, le mariage forcé, le mariage précoce des jeunes filles. Les jeunes filles sont nées et prédestinées aussi à la même éducation que les garçons. Et je pense que marier une fille à base de 10 ans, 13 ans, c'est un crime contre l'humanité.
Merci Madame Agba, on va en parler justement plus tard. Vous avez parlé tout à l'heure de Catherine Samba-Panza. Il y a eu aussi beaucoup de femmes ministres de son temps. Je ne sais plus où on en est exactement maintenant, mais il y a le système des quotas, n'est-ce pas? Donc, pourquoi selon vous est-ce si important d'avoir plus de femmes au sein des gouvernements?
Je pense que la femme est le signe de vie. La femme, je pense que si, par exemple, il y avait, on instaurait le système de parité, de nombre pour les femmes ministres que pour les femmes, pour les hommes ministres, je pense que les choses iront mieux.
Vous connaissez des organisations qui, en particulier, se font bien remarquer en Centrafrique, des organisations de femmes avec lesquelles vous échangez? Ou est-ce que vraiment vous êtes plutôt coupée, étant aux États-Unis, c'est pas évident de faire le lien entre vous et les femmes là-bas qui se battent justement, dont vous avez parlé tout à l'heure, pour parvenir à la paix dans ce pays?
Je vais souvent en Centrafrique. J'ai contact avec l'OFCA, l'Organisation des femmes centrafricaines à Bangui. Donc ça se passe bien, on échange beaucoup par rapport au projet, à certains projets d'éducation, projets de santé, et ça se passe très bien.
Est-ce que les femmes de toute ethnie, religion confondues, sont vraiment sur la même page?
Oui.
Et c'est pas le cas pour les hommes, ça?
Mais pour les hommes, cette question est plutôt subjective.
Oui.
Les femmes sont plus faciles, elles comprennent mieux. Elles comprennent mieux et facilement. Elles pardonnent en fait. Mais les hommes, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la mentalité. La femme, elle est plus ouverte et elle comprend mieux. Elle est mère. Mais c'est vraiment une idée à transmettre aux hommes aussi. Voilà.
Parole de femme.
trop peu de femmes ambassadeurs selon Marilyn Sefocle, présidente de la Women Ambassadors Foundation, à qui j'ai tendu le micro lors de la conférence des femmes ambassadeurs qu'elle organise chaque année à Washington.
Des femmes ambassadeurs, il y en a 19 à Washington sur 176. Et donc on espère que le nombre d'ambassadeurs femmes ira en croissant.
Donc c'est l'objectif de votre association,
c'est
en fait?
C'est l'objectif de la Women Ambassadors Foundation. Et ce soir, au gala, pour représenter les femmes ambassadeurs, nous avions l'ambassadeur Aurelia Brazil, qui a été ambassadeur des États-Unis dans plusieurs pays.
19 sur plus d'une centaine, c'est encore très peu, non?
Oui, c'est encore très peu, mais nous essayons de faire en sorte que le nombre ira croissant. Donc nous essayons de sensibiliser surtout les chefs d'État, parce que ce sont eux qui nomment les ambassadeurs, afin qu'il y ait parité à ce niveau.
Et pourquoi des femmes ambassadeurs? Qu'est-ce que cela finalement représente de plus, une femme ambassadeur?
Un ambassadeur représente son pays. Donc c'est une image quand même très puissante du pays à l'extérieur. Que l'ambassadeur soit une femme, cela porte en soi un message qui est différent. Ça veut dire que le pays fait confiance aux femmes pour le représenter. Donc ça, c'est très important.
Vous écoutez Le Monde au féminin avec Nathalie Barge et je rappelle que nous avons avec nous dans le studio Madame Lydie Flore Magba, chargée d'affaires à l'ambassade de Centrafrique à Washington. Madame Magba, est-ce que vous êtes d'accord avec le point de vue de Marilyn Sefocle?
100%.
Ouais.
À 100%.
Et vous-même, c'est ce qu'on vous souhaite d'ailleurs pour votre prochain poste, n'est-ce pas?
Merci. Ouais. C'est une bénédiction, je reçois. Mm-hmm. Merci beaucoup. Effectivement, je suis d'accord avec madame. Par exemple, en République centrafricaine, ouais, nous ne sommes pas nombreuses. Hein. Là, je suis chargée d'affaires. Je ne suis pas encore ambassadeur. Je suis chargée mm-hmm. d'affaires. Mais sinon, il y a quand même en République du Congo, Brazzaville, on a une femme ambassadeur. À New York, la représentante, une dame aussi. Et en Guinée équatoriale, nous avons aussi une dame ambassadeur.
Oui.
Donc, voilà.
Donc, il y en a quelques-unes, mais ce n'est pas beaucoup. Hein.
Non, ce n'est pas beaucoup. C'est beaucoup.
C'est encore très faible. Hein.
Très faible.
Oui. Mmh. La pauvreté en Centrafrique, le niveau social des femmes, la violence. On a beaucoup parlé de cette violence contre les femmes pendant la crise, encore maintenant. Est-ce que c'était comme ça avant ou est-ce que c'est vraiment la crise qui a révélé ces violences faites aux femmes?
En fait, ce problème existait bien avant, mais ce n'était pas aussi prononcé qu'avec la crise. La crise vraiment a augmenté cette violence vis-à-vis des femmes parce que les hommes ont utilisé les femmes comme armes de guerre pour blesser la population, blesser les hommes.
Oui, ce qui a exacerbé encore plus la crise, forcément.
Effectivement, effectivement. Et là, je demande à toutes les femmes centrafricaines qui ont vécu ces genres de violences que je partage leur douleur et je leur demanderai de se lever, de se battre pour éradiquer ce problème.
Vous avez vu qu'avec le tribunal spécial, en Centrafrique notamment, on va pouvoir, je l'espère, traiter leur cas comme dans d'autres régions finalement.
Ah oui, j'espère. Dans l'immédiat, j'espère.
Si jeunesse pouvait.
De nombreuses jeunes béninoises, comme des millions de jeunes filles dans le monde, ne sont pas épargnées par la tradition du mariage des enfants, hein, Madame Magba, dont vous avez parlé tout à l'heure. Ces comportements sont fréquents dans le nord du Bénin, selon notre correspondante, d'où le lancement de la campagne Tolérance Zéro face au mariage des enfants. À ce propos, je vous propose d'écouter un extrait du reportage de Ginette Fleur-Adandé.
Au Bénin, 3 filles sur 10 sont mariées avant de franchir les 18 ans. Ghislaine Bokovo est commissaire de police, responsable de l'Office central des mineurs de la famille et de la répression de la traite des êtres humains.
La sensibilisation a très duré. Il faut frapper, sanctionner pour montrer l'exemple. De mon côté, je ne cesse de mener cette campagne, surtout dans les organes de sécurité, pour demander à mes pairs de combattre le phénomène dans cette dernière rigueur.
La campagne qui vient de démarrer, comme son nom l'indique, ne fera de cadeau à personne. Pour Akosiwa Stella Dopodio, présidente de la fondation Éduque Fimère, il faudra se démarquer des apparitions dans les médias pour combattre le phénomène sur le terrain dans les zones connues pour être le lit de ce genre de crime contre l'épanouissement des jeunes enfants.
Il faut vraiment que nous allons auprès des filles qui souffrent réellement de ces problèmes, s'approcher réellement des parents qui pensent encore naïvement ou par manque d'informations que le mariage d'enfants est quelque chose qu'il faut perpétuer. C'est un acte qui a encore des valeurs. Il faut faire réellement quelque chose de concret.
Plusieurs artistes se sont engagés pour aider à sensibiliser.
La fille souffre, elle doit aller à l'école, elle doit être émancipée, elle doit servir sa nation demain. Mais une fille qui n'est pas encore en âge, garder une grossesse, qui est donnée en mariage, qui subit des rapports sexuels de force, donc c'est une très belle cause et je suis prête, et je me suis engagée dedans.
Peut-être qu'avec la volonté politique qui porte désormais la mission, on ne verra plus de filles portées sur leur tête ou sur leurs épaules les conséquences d'une tradition, quoi qu'on dise, bourreau des femmes. De Cotonou, Ginette Fleur à Dandé pour VOA Afrique.
Mais oui, et si la jeunesse pouvait?
Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invitée Lady Flore Magba, chargée d'affaires à l'ambassade de Centrafrique à Washington. Madame Magba, le mariage des enfants, vous en avez parlé tout à l'heure. C'est un petit peu comme l'excision. Il y a énormément de sensibilisation, d'organisation qui luttent pour éradiquer donc cela. Et on a l'impression, et ça c'est pas seulement une impression, c'est les chiffres qui le montrent, que ça ne change pas beaucoup. C'est même le contraire dans certaines régions avec la crise. Ça commence à voir ça de plus belle. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour arriver à quelque chose dans ce domaine-là?
La sensibilisation.
Oui.
La sensibilisation, toujours la sensibilisation, toujours la sensibilisation.
Et la justice aussi, non?
Il y a la justice qui viendra.
Mais ça fait quand même quelques décennies qu'on sensibilise.
Oui, on sensibilise, mais l'impunité. L'impunité. Parfois, on connaît les auteurs de ces crimes. Mais même si la justice intervient, tôt ou tard, on verra l'auteur du crime.
Parfois, ça montre l'exemple. On le fait notamment en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se débrouille bien dans ce domaine-là. Ils font des procès mémorables et bon, ça aide, non?
Oui, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Et puis, ça fait peur aussi. Ça fait peur aux auteurs les auteurs de ces crimes. Pour moi, le mariage précoce, c'est un crime.
Vous auriez été dans cette situation, vous pouvez vous imaginer si vous auriez résisté ou si vous l'auriez accepté?
Non, j'allais pas accepter.
Vous l'auriez pas accepté?
Non, ça jamais, jamais.
Entre parenthèses.
En Centrafrique, les violences sexuelles prennent de l'ampleur dans le sud-est du pays, nous dit notre correspondant. De nombreux cas de viol sur mineurs ont été recensés à Obo par une organisation locale. Un reportage de Freeman Sipila.
Plus de 200 victimes de viol, toutes des jeunes filles dont l'âge varie de 7 à 15 ans, sont prises en charge par l'ONG MVAD, Mutualité des volontaires africains pour le développement Centrafrique. Par manque de moyens, MVAD assure la prise en charge psychosociale de quelques-unes seulement. Abbé Christian Moana Boulanga, coordonnateur.
Avec les enquêtes qu'on a déjà menées sur le terrain, je vous dis, l'effectif est vraiment à considérer. Il y a beaucoup d'enfants qui sont violés dès l'âge de 7 à 15 ans. Il y a vraiment des enfants qu'on ne peut pas compter. Actuellement, ce qu'on est en train de prendre en charge, on compte dans le 200. On est en train de prendre en charge psychologiquement et puis les aider un peu sur le plan de santé parce qu'il y a un peu un problème à Obo, les problèmes de l'hôpital. Il n'y a pas de médecins attitrés pour aider la population. Alors, on est en train un peu d'aider les enfants là parce que beaucoup sont violés, directement étant contaminés.
Le viol sur mineur est l'infraction la plus répertoriée dans la ville d'Obo et ses environs. Plusieurs affaires liées au viol sur des jeunes filles sont encore pendantes devant la justice. Claude Gérard Kouzou, procureur de la ville d'Obo, propose des enquêtes sociologiques pour déterminer les causes.
On a enregistré plusieurs cas de viol et le plus souvent viol viol sur mineur. Le dernier cas qu'on a eu, le cas le plus terrible, c'est qu'il y a une mineure de 7 ans qui a été violée et puis 48 heures après, la mort s'en est suivie.
L'insécurité et l'éloignement de la ville d'Obo, de la capitale Bangui, ne favorisent pas l'intervention croissante de certaines organisations de prise en charge en faveur des victimes. Freeman Sipila, Obo, VOA Afrique.
Flore Magba, vous avez entendu hein, ce reportage. Bon, problème universel, hein, il n'y a pas malheureusement qu'en Centrafrique hein, qu'on viole les petites filles. Il faut dire que cette zone, la zone de Obo aussi, c'était la zone où il y avait notamment la LRA de Joseph Kony, et que depuis le mois de mai, les forces spéciales américaines et ougandaises notamment se sont retirées. Donc on ne sait pas trop ce qu'il en est de la situation là-bas. C'est un petit peu difficile. Ceci dit, sur cette question, toujours les violences envers les femmes. Selon vous, ce type de situation, est-ce que c'est... Je vous pose la même question que tout à l'heure sur la violence envers les femmes, mais là, il s'agit vraiment des enfants. Est-ce que ceci, c'est quelque chose de nouveau, vous pensez, qui a été exacerbé par la crise, ou est-ce que c'est vraiment... Certains vont jusqu'à dire que c'est culturel.
Non, c'est pas culturel. En fait, la provenance de cette violence peut être interne ou externe. C'est interne dans le sens où il y a des parents, des oncles, des frères, des cousins qui peuvent violer leurs cousines. Donc l'origine peut
être... Et les gens ne parlent pas, non. Personne ne dit rien.
Non, oui. Ben, y a certaines familles qui réagissent mal, il y en a qui ne réagissent pas. Mmh. Et il y a aussi la provenance extérieure. Les hommes qui utilisent cette violence comme une arme de guerre.
Mais est-ce que vous pensez par exemple que dans le cas d'une petite fille de 7 ans qui se fait violer, la justice va entreprendre quelque chose en Centrafrique pour punir les auteurs de ce crime?
Bien sûr.
Parce que cette petite fille, elle est morte. Hein.
Bien sûr. Ouais. Bien sûr, la République centrafricaine pourra porter plainte. Hein.
Madame Magba, quel avenir espérer pour la Centrafrique, hein? Que faut-il faire, selon vous, pour faire taire les armes et améliorer le sort de la population?
D'abord, on commence par le pardon et puis la réconciliation, s'aimer entre nous, qu'on s'aime.
Et ça ira mieux.
Oui, ça ira mieux. Et puis qu'on puisse se lever comme un seul homme. On se lève, on se dit non, mais plus jamais ça. Qu'on se serre les coudes, qu'on aille de l'avant, qu'on regarde plus au passé. Que la République centrafricaine n'est plus un rétroviseur pour regarder dans le passé. Qu'on regarde devant nous et qu'on fonce. Et ça ira.
Merci beaucoup, Lydie Flore Magba.
Tout le plaisir était pour moi.
D'avoir participé à cette émission. À très bientôt. Au revoir.
À très bientôt. Au revoir.
Je remercie Michel Joseph à la production, également Sims qui a filmé donc cette émission. Je remercie nos auditeurs. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.